Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
L'antenne vous appartient comme tous les jours, RFI vous donne la parole, nous sommes vendredi, c'est donc la libre antenne, vous connaissez le principe, dans 30 minutes vous pourrez commenter l'actualité de votre choix et je le disais à l'instant, vous êtes très nombreux évidemment à souhaiter réagir au coup d'envoi ce soir de la Coupe d'Afrique des Nations, au standard, chacun y va de ses pronostics. Une partie de la libre antenne sera donc évidemment consacrée au football africain, mais nous avons également des réactions sur l'avenir judiciaire d'Omar El Béchir, sur la situation sécuritaire au Mali, des commentaires qui nous arrivent du Bénin concernant le climat politique particulièrement tendu, ou encore sur la future monnaie que l'Afrique de l'Ouest souhaite mettre en place l'année prochaine. Voilà donc quelques-uns des sujets qui visiblement ne vous laissent pas indifférents. On en parlera donc dans 30 minutes. D'ici là, vous continuez à nous appeler 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins à cette heure-ci, ce sont vos questions à la rédaction de RFI et nous allons évidemment commencer avec une question sur la Coupe d'Afrique des Nations. Mossadou, bonjour.
Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la RFI.
Vous nous appelez de Conakry, soyez le bienvenu, on vous écoute.
Ok, comme je disais, la Coupe d'Afrique des Nations va débuter aujourd'hui en Égypte. Mmh. Et face à la menace terroriste, quel dispositif sécuritaire mis en place par l'Égypte pour assurer le bon déroulement de cette CAN?
Oui, l'un des principaux défis, si ce n'est le principal défi de l'Égypte, sera la sécurité de la compétition. Bonjour Alexandre Bouchanti.
Oui, bonjour.
Correspondant de RFI au Caire, la sécurité, un sujet sensible. En tout cas, Alexandre, le ministère de l'Intérieur a annoncé un dispositif de sécurité inédit.
Tout à fait. Il y a d'abord, évidemment, la police. 120 000 policiers qui vont être déployés aux abords des stades où se déroulera la compétition, mais aussi près des hôtels où logent les équipes, près de leur terrain d'entraînement, sans oublier des fan zones. Il y aura aussi des milliers de policiers en civil, ainsi que 7000 agents de sécurité privés qui dépendent de la société organisatrice qui se rend à l'intérieur des stades. Parallèlement, les services de renseignement intérieur et extérieur sont mobilisés pour détecter des signes éventuels avant-coureurs d'une opération hostile.
Et il y a aussi, Alexandre, des mesures technologiques.
Oui, il y a d'abord cette carte d'identité de supporter obtenue via Internet avec photo, nom, etc. Et qui doivent cadrer avec les détails qu'il y a sur le billet. Sinon, on n'entre pas au stade. Et puis à l'entrée du stade du Caire ou d'Alexandrie ou d'Ismaïlia ou de Suez, il y aura les classiques détecteurs de métaux, mais aussi des détecteurs renifleurs d'explosifs, ainsi que de fumigènes et feux d'artifice. Mais le clou technologique sera les drones munis de caméras à reconnaissance faciale qui filmeront les spectateurs pour s'assurer qu'il n'y a pas d'intrus.
Oui.
Première.
Oui, effectivement, ce sera une première, ces fameux drones. Quelles sont les menaces sécuritaires qui pèsent sur le bon déroulement de cette Coupe d'Afrique des Nations?
Alors, vous l'avez dit, le terrorisme, évidemment, en premier. L'Égypte a été le théâtre d'une série d'attentats depuis la destitution du président frère musulman Mohamed Morsi en 2013. Même si la fréquence et l'intensité des attaques ont nettement baissé, à l'excepté du Sinaï, il y a eu deux attentats contre des touristes au cours des 6 derniers mois. L'autre menace est celle de désordre ou de manifestation de la part des sympathisants frères musulmans, comme les appellent à le faire les chaînes de télé de la confrérie qui émettent depuis la Turquie. Et puis, il y a une dernière menace, c'est que ces mesures de sécurité draconiennes puissent être en fait un frein pour que les spectateurs puissent rejoindre leur match.
Ouais. En tout cas, ce soir, visiblement, le stade international du Caire sera bondé. Plus de 74 000 spectateurs sont attendus. A-t-on répondu à vos questions, Mossadou?
Oui, merci beaucoup, Anne, merci.
Et merci surtout Alexandre Bouchanti, correspondant de RFI au Caire. Match d'ouverture évidemment à suivre. 22h, heure égyptienne, 20h, temps universel sur les antennes de RFI. Dispositif spécial pour cette Coupe d'Afrique des Nations. RFI diffusera de mémoire, je crois, pour être précis, 41 matchs sur les 52 que compte la compétition. Donc nous allons vibrer tous ensemble au rythme de cette 32e Coupe d'Afrique. Afrique des Nations. Il est 10h16 pour l'instant à Paris. D'autres questions? Casimir nous a contacté de Kara au Togo. Bonjour Casimir.
Bonjour Juan et bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous avez des questions sur la disparition du journaliste saoudien Jamal Khashoggi?
Effectivement.
Allez-y.
Dans un rapport concernant l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, l'ONU demande l'ouverture d'une enquête contre Mohamed Ben Salman, le prince héritier du trône d'Arabie Saoudite.
Oui.
Quels sont les nouveaux éléments dont disposent les Nations Unies pour justifier l'ouverture d'une telle enquête contre MBS?
Alors, pour être précis, Casimir, ce n'est pas l'ONU qui demande une enquête, mais la rapporteure spéciale des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires qui demande au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, d'ouvrir une enquête pénale internationale. Mais la question est évidemment intéressante. Oriane Verdier, bonjour.
Bonjour.
Journaliste au service international de RFI. 6 mois d'enquête et un rapport qui sera rendu public dans quelques jours et présenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Dans ce rapport, Agnès Callamard, qui est donc la rapporteure spéciale de l'ONU sur les exécutions extrajudiciaires, affirme qu'il existe des preuves crédibles, dit-elle, concernant les responsabilités du prince héritier dans cet assassinat. De quelles preuves s'agit-il?
Alors, les informations les plus importantes pour l'instant sont dans les 45 minutes d'enregistrement auxquelles a eu accès la rapporteure des Nations Unies. Souvenez-vous des micros des renseignements turcs qui étaient placés à l'intérieur du consulat saoudien. Le rapport retranscrit donc des extraits de conversations. On apprend par exemple que Jamal Khashoggi était venu une première fois au consulat pour avoir ensuite un rendez-vous qui sera finalement le jour de sa disparition. Le soir de sa première visite, le consul général saoudien a eu plusieurs conversations téléphoniques à son sujet. Il parle d'une mission secrète ordonnée par la direction de la sécurité de l'État. Le jour même, le 2 octobre, quelques minutes avant l'arrivée de Jamal Khashoggi pour son deuxième rendez-vous, donc le médecin légiste saoudien est enregistré au cours d'une discussion. Il détaille comment il va démembrer le corps afin de l'évacuer plus facilement. Enfin, la discussion des hommes de l'opération avec la victime est également enregistrée. Agnès Callamard affirme donc les avoir entendus s'adresser à Jamal Khashoggi. Il lui affirme qu'ils détiennent un mandat d'arrêt d'Interpol, ce qui est faux. Quelques minutes plus tard, il sera drogué. Le rapport cite également des témoins. Nouvelle preuve du niveau de préparation de l'opération. Le personnel non saoudien du consulat avait par exemple été pris de ne pas venir au consulat ce jour-là et les Saoudiens, eux, devaient rester à leur poste et ne pas quitter le consulat.
Finalement, toutes ces preuves réunies à d'autres analyses menées par l'équipe d'experts des Nations Unies amènent à une conclusion, c'est que l'Arabie Saoudite, en tant qu'État, est responsable de la mort du journaliste.
Oui, exactement. Et comme le disait Casimir, il y a aussi de forts soupçons qui sont portés sur le prince héritier, Mohamed Ben Salman. Le document apporte aussi des preuves sur l'utilisation plus générale par Riyad d'instruments illégaux pour surveiller ses dissidents. Donc on parle pas seulement d'une question de justice, mais aussi de la protection de la liberté et de la vie de dissidents qui dérangent actuellement le gouvernement. Le problème maintenant, c'est qu'Agnès Callamard n'a pas de mandat pour mener une enquête pénale, comme elle l'explique dans une interview pour Lorient 21. Elle demande donc, comme vous le disiez, Juan, elle demande au secrétaire général des Nations Unies de prendre les choses en main et de charger des personnes aptes à construire des dossiers contre ces personnes inculpées.
Affaire à suivre. En tout cas, c'est la semaine prochaine, le 26, si ma mémoire est bonne, qu'elle présentera ce rapport au Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous aviez une dernière question, Casimir?
Oui, effectivement, j'en ai une.
Allez-y.
Une enquête a été également ouverte en Arabie Saoudite suite à la mort de Jamal Khashoggi. Où en est-elle?
Ah, où en est l'enquête? Il y a même un procès qui est en cours, non?
Oui, exactement. Il y a un procès qui est en cours actuellement et sur lequel revient également Agnès Calamard dans son rapport, puisque donc à l'origine, une vingtaine de personnes a été arrêtée. Actuellement, 11 d'entre elles sont en train d'être jugées, les autres ont été relaxées. Donc selon Agnès Calamard, ceux qui étaient présents sur les lieux du crime sont ceux qui sont les plus visés, mais le rapport souligne que le principal suspect, Saoud Al-Qahtani, proche conseiller de Mohamed Ben Salman, ne fait pas partie des accusés. L'Arabie Saoudite soutient que le cas de Khashoggi est une affaire interne. Donc le procès se déroule à huis clos. Riyad a tout de même offert à la Turquie et aux 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies d'envoyer des observateurs. Ces observateurs ont accepté de venir, mais selon Agnès Calamard, c'est une grave erreur puisque donc ils crédibilisent par leur présence ce procès, mais ils n'ont pas le droit d'en parler. Ils sont soumis à une clause de confidentialité. Donc finalement, ils ne vont pas avoir leur mot à dire dans le déroulement de ce procès.
À suivre donc. Merci beaucoup, Oriane Verdier, d'être venue répondre à Casimir, qui nous appelait du Togo. Il est à Kara, exactement. Au Togo, il est 8h22, 33 9 693 693 70. Stéphane Geneste, du service France de RFI, nous rejoint. Bonjour Stéphane.
Bonjour Juan.
On vous a demandé de nous rejoindre ce matin. Nous avons reçu des questions concernant les déboires judiciaires de Nicolas Sarkozy avec ce dernier rebondissement un peu compliqué pour certains auditeurs, et on le comprend même moi, en tant que journaliste.
Même pour nous, c'est compliqué.
Et pour, voilà, il faut le dire, hein, soyons honnêtes. Nicodème, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Oui, c'est
bien
c'est
ça. On vous écoute.
Oui, Nicolas Sarkozy sera jugé par le tribunal correctionnel pour corruption selon une décision récente de la justice française. La juridiction européenne interdit à la justice d'utiliser des écoutes entre un prévenu et son avocat comme preuve. Un tribunal français pourrait-il s'en servir dans le cadre d'un procès?
Alors, cette affaire des écoutes téléphoniques, vous pouvez nous rappeler le contexte déjà?
Oui, alors, Nicolas Sarkozy fait l'objet d'une enquête sur l'affaire du financement libyen de sa campagne électorale en 2012. Il est soupçonné d'avoir reçu plusieurs dizaines de millions d'euros de la part de la Libye et de son ex-dirigeant, Muammar Kadhafi. Et dans le cadre de cette enquête, Nicolas Sarkozy, qui était alors président de la République, a été mis sur écoute avec son avocat, Maître Thierry Herzog. Donc ils ont échangé des coups de fil, etc. Et Nicolas Sarkozy se faisait appeler Paul Bismuth. Il avait acheté un nouveau téléphone, une carte prépayée, il se faisait appeler Paul Bismuth. Et donc Paul Bismuth, alias Nicolas Sarkozy, échangeait au téléphone avec son avocat. Et les enquêteurs ont intercepté cet échange-là. Et là, les enquêteurs découvrent justement que les deux essaient d'obtenir des informations secrètes sur une autre affaire, sur une autre enquête, on ne reviendra pas dessus, en essayant de soudoyer, de corrompre un magistrat de la Cour de cassation, Gilbert Azibert. Donc ça, c'est dans l'affaire du financement libyen de sa campagne. On découle une autre affaire, l'affaire dite des écoutes. Et donc Nicodème, vous le disiez, la juridiction européenne interdit à la justice d'utiliser des écoutes entre un prévenu et son avocat comme preuve. Donc là, dans le cadre de l'affaire du financement libyen, ce sera pas possible, mais comme c'est une autre affaire, c'est possiblement jouable pour la justice. Donc l'affaire dit des écoutes, que la Cour de cassation a accepté, du moins pour qu'elle soit jugée, pour qu'elle soit traitée par le tribunal correctionnel. Oui, c'est compliqué, pour qu'elle soit acceptée de juger par le tribunal correctionnel. Dans les prochaines semaines, donc, Nicolas Sarkozy, son avocat Maître Thierry Herzog et le magistrat apparemment corrompu Gilbert Azibert seront donc jugés dans les prochaines semaines. Les avocats de Nicolas Sarkozy précisent que la Cour de cassation n'a pas écarté les moyens qui avaient été soulevés par la défense, mais que la Cour de cassation a choisi de laisser au tribunal le soin de les trancher. En conclusion, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut retenir, c'est que le tribunal correctionnel se servira de ces écoutes-là, mais après, est-ce qu'elle pourra précisément les utiliser, ça c'est une autre question.
C'est une autre question, effectivement. Nicodème.
Oui.
En parlant de questions, vous en avez une dernière.
Oui, c'est ça.
Allez-y.
Que risque Nicolas Sarkozy dans cette affaire? Pourrait-il être condamné à de la prison ferme?
Alors, Nicolas Sarkozy risque gros dans cette affaire, tribunal correctionnel. Il est jugé pour corruption et trafic d'influence. C'est la première fois dans la Ve République qu'un président est jugé pour corruption. La corruption, c'est sévèrement sanctionné par le code pénal. C'est un délit qui est risque d'une sanction de 10 ans de prison, c'est le maximum hein, qu'on peut avoir en tribunal correctionnel, 1 million d'euros d'amende et une interdiction d'exercer une fonction publique concernée par l'infraction. D'ailleurs, la Cour de cassation qui autorise ce procès au tribunal correctionnel va dans le sens du parquet national financier, puisqu'en 2018, il y a un an, les juges avaient ordonné un procès pour corruption et trafic d'influence pour Nicolas Sarkozy, son avocat et le magistrat en question. Mais il faut aussi savoir que Nicolas Sarkozy est sous le coup d'autres enquêtes.
Big Malion, notamment.
Mais c'est pas encore sûr. Ce procès-là n'est pas encore tout à fait défini. C'est pas encore autorisé. Big Malion, juste en quelques mots, c'est le financement illégal aussi de sa campagne, apparemment illégal de sa campagne présidentielle de 2012, où Nicolas Sarkozy et d'autres protagonistes auraient mis en place un système de fausses factures pour éviter de dépasser le plafond autorisé.
Feuilleton à suivre.
À suivre, oui.
Merci Stéphane Geneste d'être passé répondre à Nicodème qui nous appelait d'Abidjan. Ce sera la dernière question de la semaine. Elle nous vient de Caille, au Mali. Bonjour Siramadi.
Bonjour Juan Gomez, bonjour à tous les auditeurs de la radio RFI.
Des questions sur l'épidémie de rougeole qui frappe la République démocratique du Congo.
Oui, Juan, l'épidémie de la rougeole officiellement déclarée le 10 juin en République démocratique du Congo a déjà provoqué la mort de 1500 personnes depuis le début de l'année, a indiqué le ministère de la Santé. Comment expliquer le retour de la rougeole au Congo RDC alors qu'il existe un vaccin contre la rougeole?
Oui. Et d'ailleurs,
quelles sont les mesures que le gouvernement veut entreprendre pour lutter contre cette épidémie?
Ouais, des questions intéressantes, d'autant que Médecins Sans Frontières, qui est sur place, sur le terrain, qui travaille aux côtés du ministère de la Santé, affirme que cette épidémie de rougeole pourrait être la plus meurtrière depuis 2012. Bonjour Carole Janssen.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct de Kinshasa. Vous êtes le chef de mission de Médecins Sans Frontières en République démocratique du Congo. Siramadi le rappelait à l'instant, 1500 décès depuis le début de l'année, 87 000 cas suspects. La rougeole, c'est une maladie virale particulièrement contagieuse. Comment expliquer cette contamination massive?
Oui, et aujourd'hui, on a déjà dépassé le 1800, et effectivement, c'est une épidémie nationale qui vient d'être déclarée. Pourquoi une épidémie à cette échelle? Bon, c'est une couverture vaccinale qui est très bas. C'est depuis des années qu'il y a très peu des enfants qui sont vaccinés d'une façon routine, et ça donne une population qui est quasi pas vaccinée.
Alors que le vaccin est le seul moyen aujourd'hui de lutter contre cette maladie.
Oui, après on soigne les enfants malades, mais c'est des soins pour soigner les symptômes. Il n'y a pas de médicament pour traiter la maladie. C'est un traitement symptomatique. Effectivement, c'est la vaccination qu'il faut faire. Mais ça nécessite un système de surveillance, un système de chaîne de froid. Ça nécessite les moyens. Ça nécessite des vaccins dans le pays, parce que là, maintenant, il y a des vaccins qui viennent d'arriver il y a quelques semaines, mais il faut avoir cet appui des vaccins, l'appui financier, et avec tous les défis qu'il y en a dans la RDC,
bien sûr.
On est arrivé à une épidémie de cette taille.
Oui, puisque les conflits armés qui se déroulent en ce moment ont aussi des répercussions sur cette épidémie, il y a les déplacements de population qui paralysent le système sanitaire dans certaines zones. Vous appelez donc, quand je dis vous, c'est MSF, à une mobilisation massive pour vacciner plus d'enfants. Vous travaillez évidemment en étroite coopération avec le ministère de la Santé, avec le gouvernement.
C'est ça, c'est ouais. ça. Et il y a des initiatives du gouvernement qui sont déjà été faits. Il y a aussi une campagne de vaccination de routine qui est prévue pour la dernière partie de l'année. Mais face à cette épidémie, il faut agir maintenant. Et ça nécessite de plus des acteurs, plus des vaccins, à ne pas oublier de rassurer qu'il y a une prise en charge gratuite
des soins,
pour les enfants qui se présentent dans les structures de santé, parce qu'il faut gérer cette épidémie aujourd'hui.
Il y a donc urgence, urgence, il faut vacciner les enfants. Merci beaucoup Carole Janssen d'avoir été en direct de Kinshasa, chef de mission de MSF en République démocratique du Congo. On va retrouver dans un instant l'ensemble du service Afrique de RFI pour la dernière édition d'Afrique Matin. Et on sera de retour évidemment dans 10 minutes pour la Libre Antenne. Appelez-nous, exprimez-vous, rejoignez-nous, venez lancer le débat en direct sur RFI.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.